soir et bienvenue dans les ondes noires.
Tu t'arrêtes là ou...
Non, je m'arrête pas là. Ah, bon, l'émission polar, la plus rock de la bande FM.
Bonsoir, Jacques.
Bonsoir, Corinne. Bonsoir à tous.
Voilà, une émission coup de cœur. Des coups de cœur, encore des coups de cœur, que j'espère vous partagerez avec nous, c'est-à-dire que vous irez chez votre libraire ou chez votre bibliothécaire préféré emprunter ou acheter ces romans, parce que c'est vraiment des romans qui lus depuis des romans d'été, des romans de début d'automne qui nous ont bien enthousiasmés. Et puis en dernière partie d'émission, nous aurons Alain Bandry, spécialiste de polar dans la région, qui se joindra à nous pour un de ses coups de cœur. Et je vais commencer par un auteur dont vous m'entendez souvent parler. Je parle de Ken Bruen et de son dernier roman qui s'appelle Calibre. Calibre est sorti à la Série Noire de Gallimard, bien sûr. C'est un livre traduit par Daniel Lemoine. Je rappelle que Ken Bruen, c'est un Irlandais. Alors, Ken Bruen, on en parle souvent. Mais c'est normal, parce que Ken Bruen, il écrit beaucoup. Si ça vous rappelle quelque chose, il a ce qu'on appelle la série de Jack Taylor, c'est-à-dire où son personnage récurrent est le détective Jack Taylor. Il a les R&B. Alors, R&B, attention, c'est pas la musique, hein. Pour les néophytes, c'est les flics Roberts et Brandt. En gros, c'est des sortes de Fossoyeur Jones et Ed Cercueil londoniens. Et puis, il y a les hors-série. Alors, les hors-série, évidemment,
si
c'est...
Si tu me permets de t'interrompre, il y a eu une adaptation d'un des romans de Robert et Brandt, avec Jason Statham dans le rôle de Roberts.
Voilà, et celui de Brandt, tu sais pas, tu connais pas.
J'ai encore vu le film.
Donc j'étais en train de dire, avant que tu ne m'interrompes pas, n'est-ce pas, que tu ne m'interrompis, pardon, que les hors-séries, c'est évidemment ceux qui n'appartiennent ni à la première, ni à la deuxième série. Donc, un roman calibre de la série R&B, c'est de ceux que j'appelle, avec un jeu de mots pas trop mauvais quand même, on va dire les romans jubilat noirs, parce qu'ils sont très sombres, mais ils sont très très rigolos. Alors pour la petite histoire, je dois vous dire que en face de moi, le technicien Philippe, eh ben il est pas d'accord avec moi et apparemment il trouve mon jeu de mots complètement débile. Bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Donc de la série Robert and Brandt et on suit comme à son habitude toute la brigade. Là, ils vont se retrouver confrontés à un serial killer qui décide de supprimer tous les malpolis. Évidemment, ce serial killer, c'est très difficile à coincer, car les meurtres sont donc commis au hasard et sans mobile apparent. Il suffit que quelqu'un se soit mal comporté à côté de lui, allez, on le zigouille. Voilà. Mais malgré tout, Ken Bruen sait très bien que dans les romans, le serial killer a des codes bien précis, et en particulier, celui de se faire remarquer pour se faire arrêter, afin de connaître, on va dire, une certaine notoriété. Et donc, comme dans les autres livres à serial killer, notre meurtrier, oula, j'ai problème d'élocution ce soir.
Assassin.
Notre assassin, voilà, c'est peut-être pas mieux remarque. Il envoie aux flics des lettres signées d'un certain Ford. Et tout de suite, le lecteur est prévenu, Ford, c'est le héros de Jim Thompson dans un livre mythique qui s'appelle Le démon dans ma peau. Mais évidemment ça, les deux flics Robert et Brandt ne sont pas censés comprendre ça. Même si, depuis les débuts de ce duo, Brandt a enfin complété sa collection du 83e district, c'est toute la série des N. McBain. Voilà, je vous en dirai pas plus sur l'enquête parce que finalement, on s'en fiche un peu, le propos de l'écrivain est vraiment ailleurs. On va donc suivre les péripéties, parfois comiques, parfois tragiques, toujours pathétiques, des différents agents de la brigade londonienne. Et le regard va un petit peu se déporter. On va être évidemment avec Robert et Brandt, mais les feux de la rampe vont aussi se fixer sur, entre autres, les deux nanas de la brigade. La première s'appelle Falls. Elle traîne pas mal de casseroles. Je cite Ken Bruen, « Son poste ne tenait qu'à un fil. Si elle avait été blanche, elle aurait été virée. » Elle est mal dans sa peau et dans son corps, et elle fait équipe avec McDonald. Alors lui, c'est le macho en piteux état. Je recite Ken Bruen, il avait gravement déconné et en plus, il s'était fait tirer dessus. Alors, il y a une autre femme qui s'appelle Andrews. Elle n'est pas là depuis longtemps, mais elle s'est vite intégrée. La preuve. Elle avait été un temps sous l'aile de Falls, puis s'était bien débrouillée. Brandt l'avait testée, comme pratiquement toutes les nouvelles, avant de la laisser tomber. Je suppose que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que veut dire Brandt l'avait testé. Alors, on a aussi Porter Nash, en gros le mot de service. Et puis évidemment, arrivent les deux amis Robert et Brandt, dont les méthodes très discutables finissent malgré tout par arranger bien des histoires. Et évidemment, cette histoire sera arrangée comme les autres. L'avantage dans ces romans, c'est que Ken Bruen se régale à imaginer des scènes hautement improbables dans lesquelles se dépatouillent tant bien que mal ses personnages. On a par exemple une scène où Falls et son acolyte, MacDonald, vont aller prêcher la bonne parole dans une école. Sauf que ça leur va pas très bien. Autre scène, au pluriel là, où Brandt décide d'être écrivain. On a aussi une folle nuit d'amour pour Falls. Et puis, la gloire pour sa copine Andrews, qui arrête un dealer, mais alors la connerie du dealer, je vous dis pas. Et au même moment, MacDonald s'enfonce pour avoir été lâche lors de cette interpellation. Évidemment, il y a des pannes de bière. Évidemment, il y a des cassages de gueule. Ken Bruen dit « Les polars, mes frères, c'est le nouveau rock'n'roll. » Et si Ken Bruen le dit, c'est que c'est sûrement pas faux.
En tous les cas, nous on le dit depuis longtemps.
Voilà. Et en tout cas, ce petit dernier, c'est totalement rock'n'roll et ça fait du bien dans ces jours qui commencent à raccourcir et à fraîchir. Voilà, je rappelle à la série noire Calibre de Ken Bruen avec une couve, allez, pour une fois pas mal. Les dernières nous avaient pas trop plu, mais celle-là, elle est sympa. On reste en Grande-Bretagne, Jacques ?
On reste en Grande-Bretagne, on va monter un peu plus haut en Écosse. On reste dans les habitués de Onde Noire, avec un auteur qu'on reçoit, enfin, au moins...
Ah, on aimerait bien qu'il vienne, mais bon.
On reçoit souvent, du moins, ses livres. C'est Ian Rankin. Et bon, et si lui revient souvent, ben c'est que c'est, faut dire, aussi un des plus grands du polar anglo-saxon et du polar écossais. Ce roman s'appelle « Portes ouvertes », il est publié au Masque, et il est traduit par Stéphane Carne. Alors, vous savez sûrement, on l'a probablement dit dans cette émission, Ian Rankin, il a mis son flic fétiche à la retraite, John Rebus. Et avant d'attaquer une nouvelle série de romans, eh ben, il a publié un one-shot, donc hors série, qui s'appelle Portes ouvertes, en anglais Doors Open.
Ce qui est une traduction assez correcte.
De Stéphane Carn. Et donc là, ce Doors Open, en fait, c'est un roman de braquage. Une équipe monte un cambriolage dans les réserves du Musée National d'Écosse lors d'une journée porte ouverte. D'où, comme vous vous en doutez, le titre Doors Open. Mais ces braqueurs sont de véritables amateurs. Des amateurs d'art d'abord. Mais surtout, des amateurs dans l'art du braquage.
Des branquignoles, quoi.
Des branquignoles, exactement. Alors, il y a Alan, lui, c'est un banquier de grand compte, qui rêve d'avoir une des toiles qu'il voit toujours dans sa banque, dans sa maison. Il y a Robert, lui, c'est le directeur de l'Institut d'art. Donc, lui, il est bien placé pour connaître les œuvres d'art. Et il y a Mike, lui, c'est un richissime Edin bourgeois qui a fait fortune avec sa start-up, qu'il a revendue, et maintenant, il vit pépère. Donc, les trois compères décident de monter un coup. Un beau coup, comme on les voit dans les films. Mais voilà, pour monter un coup comme ça, eh ben, ils vont avoir besoin d'un faussaire pour les tableaux, et puis d'un véritable truand pour tout ce qui est logistique, les armes, etc. Parce que, évidemment,
le système d'alarme. Voilà, ah, ben non, c'est la journée porte ouverte, pardon.
Non, c'est porte ouverte, c'est super bien. Mais enfin, un banquier, quand même, il est pas tellement forcément spécialisé dans les AK-47.
Ouf, tu sais, de nos jours.
Et voilà, donc, je vous raconte pas comment, pendant 330 pages, Ian Rankin va nous raconter la préparation du casse, le casse, et puis ce qui arrive après, qui est souvent la partie la plus difficile à gérer, c'est-à-dire le partage, la patience avant de dépenser l'argent, etc.
Et fourguer la camelote.
Voilà, non, mais ils vont pas la fourguer, parce qu'en fait, ils veulent récupérer des tableaux pour eux. Voilà, alors la première partie est un peu lente, parce qu'on fait connaissance avec les différents protagonistes, et puis avec le casse lui-même. Et alors après, à partir du moment où le casse est réussi, ça s'accélère. Alors là, ça devient les personnages complètement branquignoles, et alors ça devient absolument irrésistible. Et il y a bien sûr un flic qui va les traquer. Et évidemment, comme c'est un roman qui est un peu amoral, on a bien envie que le flic ne les retrouve pas.
Bah oui, c'est des amateurs d'art quand même.
Voilà. Alors les amateurs de polar penseront bien évidemment au Dortmunder de Donald Westlake. Mais ils pourront aussi penser au crétin truand qu'a créé Elmore Leonard dans les romans qui s'appellent Pronto et Beyrouth Miami, qui sont parfaitement irrésistibles aussi. Mais bon, là, évidemment, c'est en Écosse. Car, évidemment, comme dans souvent les romans de Ian Rankin, eh ben, il en profite pour faire une déclaration d'amour à sa ville. Alors, c'est amour-haine, parce qu'il y a des passages où il en dit vraiment du mal. Et finalement, celui qui va en dire le plus de bien, eh ben, c'est le truand des quartiers malfamés qui ne peut absolument pas vivre ailleurs que dans sa ville d'Édimbourg. Et on peut le comprendre, surtout si on est écossais. Bref, là, aujourd'hui, on change un peu des romans absolument affreusement noirs dont on parle d'habitude. Et donc, c'est un petit bijou d'humour corrosif dont on aurait bien tort de se passer.
Donc, on a fait l'Irlande avec Galway. Ah ben non, Galway, c'est la série de Jack Taylor. On a fait Londres avec la série des R&B. Édimbourg, ça vaut bien un petit morceau anglo-saxon.
Je voulais juste préciser un petit truc avant. C'est que Ian Rankin vient de faire une application pour smartphone. Donc, si vous avez un iPhone ou un truc Android, et vous pouvez profiter d'un extrait de son dernier roman en anglais, évidemment, mais aussi une visite d'Édimbourg par lui-même, des quiz. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui est très très amusant.
Gageons qu'il montre le pub où va régulièrement se reposer son héros.
C'est pas du tout impossible, surtout que dans Portes Ouvertes, il en décrit un autre qui a une collection de pure malt absolument formidable. Bon, donc Ian Rankin, Portes Ouvertes au masque. Et maintenant, donc tu voulais dire qu'on allait mettre de la musique. On va mettre de la musique irlandaise, mais jouée par un groupe vosgien de la petite ville de Sélestat, et qui...
Sélestat n'est pas dans les Vosges. Je pense qu'il y a quelques personnes de l'est de la France qui vont nous reprocher, qui vont téléphoner en grand nombre. Sélestat est en Alsace.
D'accord,
soyons
mais
précis.
Bon, c'est à 80 km de Saint-Dié des Vosges, donc c'est pas loin. Donc ces jeunes Vosgiens, on pourrait pas franchement dire qu'ils soient de Cork, de Galway ou de Dublin, mais en tous les cas, ce qu'ils font dans la musique genre Pogues, c'est plutôt bien. Ils s'appellent The Moorings, et le morceau assez connu s'appelle Finnegan's Wake.
Tim Finnegan lived in Watkins Street, a Chandlerman Irish Miley Hunt. Well, he had a tongue both rich and sweet, to ride in a word he carried the heart. But Tim had sort of Dublin way, with the love of the liquor he was born, to send him on his way each day, a drop of crater every morn. Choked and landing on the bed. whiskers colored over Tim. Daughter five sea horizons. Tim Finnegan riding in the bell. Sing with Leo whiskey round like bladers, tolerant just do you think I'm dead?
Voilà un album qui sent la Guinness. D'ailleurs, il s'appelle Pint and Glory. Doutons que la gloire, je ne sais pas, mais les pintes, ils ont dû en goûter.
Ah, c'est Pint.
Pint.
Oui,
Pint.
Parce, oui, parce que sinon, la peinture...
Pint and Glory.
Voilà, oui. Voilà, et eh ben, malgré qu'on ait parlé d'alcool, moi, je vais vous parler d'un roman, on va dire, pour ados, mais qui convient très bien aux jeunes adultes. C'est dans la collection Rat Noir, qui est vraiment une collection que je recommande à chaque fois. Allez directement, quand vous allez chercher un livre pour vos chères têtes blondes.
Ah, Rat Noir chez Syros.
Voilà, chez Syros, ou bien la collection Souris Noir pour les un petit peu plus jeunes. Et ce livre, un des derniers sortis, s'appelle Silence. Il est de Benoît Sévrac. Voilà, donc, une histoire, je dirais, banale, mais très intéressante. En gros, le personnage principal s'appelle Jules. Évidemment, comme tous les ados, il veut impressionner une meuf. Il va à une fête, une teuf, employons leur langage, allons. Il avale, donc, devant elle, pour l'épater, deux cachets d'extasie. Il se réveille le lendemain, ou plusieurs jours plus tard, plus exactement, sourd pour la vie. Dans le silence qui va maintenant l'environner, il va donc avoir le temps de réfléchir aux conséquences de son acte. Et face à lui-même, il va donc être obligé de devenir un adulte pour affronter les autres, sa famille, ses amis. Et puis il y a les flics qui le harcèlent pour qu'il balance celui qui lui a vendu ses cachets parce que les cachets ont été trafiqués, c'est pour ça qu'il est tombé dans le coma et il y a d'autres victimes. Justement, va-t-il choisir de parler ou va-t-il choisir le silence ? Alors, plutôt que le discours « en gros, la drogue, c'est de la merde », moi, je vous conseille de mettre ce roman entre les mains de vos chers adolescents, blondes, tête blonde et butée d'ailleurs, voire boudeuse, ici.
Ou brune. Hein.
Voilà, mais bon, tout au moins, toujours butée. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de didactisme pesant. Benoît Sévrac ne se pose pas en censeur ni en juge. Il nous raconte, comme je le disais au début, une histoire simple, une histoire banale, ordinaire, comme il s'en passe, comme le dit un chanteur, le samedi soir sur la terre. Jules, c'est pas un personnage héroïque. C'est plutôt un ado, comme il y en a des milliers dans les lycées, et le week-end, dans les rêves.
Les rêves.
Alors on va dire rêve party, comme
voilà,
ça tout le monde
les
va
rêves,
comprendre.
On en a tous les jours, pas que le week-end. Hein.
Voilà. Au niveau de la narration, style direct, sans fioritures, qui utilise à bon escient, sans démagogie, le langage des jeunes paumés face à la saloperie du monde qui les entoure. Vraiment, c'est une collection, donc ce livre nous a beaucoup plu, et je vous conseille tous les livres de la collection Rat Noir, qui sont vraiment d'excellents romans noirs, on va dire, pour grands ados, même ceux qui sont attardés, qui abordent tout le temps, avec justesse, sans mièvrerie et avec beaucoup de finesse, des sujets essentiel. Voilà, oui. Silence.
Et quand tu disais ado, ça peut effectivement revenir même à des adultes.
Moi, je me suis régalée et Dieu sait si je suis maintenant loin d'être une ado attardée. Silence de Benoît Sévrac. Ce sera mon mot de la fin. Silence.